Chapitre 20. Ce chapitre commence par la parabole du maître de maison et de ses ouvriers, parabole qui, au verset 16, nous ramène au même point que le verset 30 du chapitre 19, avec une conviction nouvelle. Elle se rattache aussi directement à la question de Pierre, qui demandait une promesse précise de récompense, puisqu'elle met en contraste la différence de traitement que fait le maître de maison entre ceux qui l'ont servi à la suite d'un accord conclu et ceux qui ont travaillé pour lui sans aucun accord, mais dans la simple confiance qu'il leur donnerait ce qui sera juste. Nous pouvons facilement comprendre les sentiments de ces ouvriers de la première heure et leur plainte d'être traités injustement, puisqu'ils avaient supporté la fatigue et la chaleur de la journée. Quel ouvrier ne serait pas enclin à raisonner comme eux? Mais le maître de la maison accorde une grande valeur à cette confiance dans la justice de son appréciation et à cette foi en sa parole qui caractérise les derniers venus. Il lui était permis de faire ce qu'il voulait de son propre argent, et il estime si hautement la foi qu'il donne au dernier exactement la même chose qu'au premier. De plus, en distribuant l'argent, il commence par les derniers. Ainsi, les derniers sont devenus les premiers, et les premiers les derniers. Nous avons là une leçon que nous sommes tous lents à apprendre. Le Seigneur ne mésestimera pas le travail, mais il appréciera encore davantage la simple foi en lui, en sa justice, en sa sagesse, en sa parole, la foi qui continuera à le servir, même si le jour est très avancé, sans se préoccuper de la récompense, ni chercher à conclure un accord. La foi et l'amour qui pousseraient certains à le servir ainsi ont plus de valeur pour lui que le travail effectif qu'il pourrait accomplir. Puissions-nous lire, méditer, apprendre et digérer intérieurement cette parabole avec profit. Jésus se dirige maintenant pour la dernière fois vers Jérusalem et de nouveau, il place devant ses disciples sa mort imminente et sa résurrection. C'est la quatrième fois qu'il en parle dans cet évangile, depuis sa déclaration importante du chapitre 16 quant à l'assemblée qu'il bâtirait. Ce court passage est riche en détails. Il annonce sa trahison par Judas, sa condamnation par le Sanhédrin, le fait qu'il serait livré par les Juifs à Pilate et à ses soldats, les moqueries, les coups, la crucifixion, et enfin, sa résurrection. Tout cela en deux versets. Mais les disciples ont encore toutes leurs pensées remplies par l'attente du prompt établissement du royaume, à tel point que Jacques et Jean sont amenés par leur mère, qui demande pour eux des places d'honneur dans ce royaume. Jésus répond par une question qui montre que l'honneur dans le royaume à venir sera en proportion de la manière dont on se sera identifié à lui dans ses souffrances et sa réjection. Il mentionne en même temps que les récompenses dans le royaume seront données selon le jugement du Père. Le Fils de l'homme lui-même recevra le royaume des mains du Père, comme cela a été indiqué dans le psaume 8 et en Daniel 7. De même, les saints recevront leur place dans le royaume de la main du Père. Nous en souvenir nous aidera à comprendre ce que le Seigneur veut dire par « ce n'est pas à moi de le donner » en relation avec les récompenses. C'est le seul cas, pour autant que nous sachions, où un parent venu présenter une requête au Seigneur pour un de ses enfants s'est heurté à un refus. Mais aussi, la mère demandait ici une place d'honneur comme récompense. Dans tous les autres cas, il s'agissait d'une demande de bénédiction des mains du Seigneur. Jamais une telle requête n'a été repoussée. Il y avait évidemment un esprit de compétition entre les disciples, car les 10 estiment que les 2 ont marqué un point par rapport à eux et ils sont indignés. Cela nous vaut une leçon plus belle encore quant à l'humilité qui convient dans le royaume. Même aujourd'hui, nous sommes très lents à admettre que les principes qui prévalent dans le royaume divin sont l'opposé de ceux qui ont cours dans les royaumes des hommes. Dans le monde, la grandeur s'exprime par la domination et l'autorité. Les grands sont dans la position de chef sur leurs semblables. Parmi les saints, la grandeur consiste dans le fait de servir et d'être esclave. Au verset 26, nous avons le mot « serviteur ». Et au verset 27, celui d'esclave, le terme que Paul emploie pour Timothée et pour lui-même dans le premier verset de l'Épître aux Philippiens. Paul était par excellence un esclave de Jésus-Christ et il ne sera pas estimé petit lorsqu'il sera jaugé par la mesure ayant cours dans le royaume des cieux. D'un autre côté, il y avait au jour de Paul des hommes qui, aspirant à la domination et à l'autorité, asservissaient les croyants, prenaient leurs biens, s'élevant eux-mêmes et frappant les autres au visage. Mais c'étaient des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, voir 2 Corinthiens 11, versets 13 à 20. Il y en a aujourd'hui qui affirment leur domination de la même manière, et il convient que nous soyons sur nos gardes à leur égard. Le Seigneur se présente à nous comme le Fils de l'homme, venu non pas pour être servi, mais pour servir, et pourtant, son droit était d'être servi. Nous le voyons sous un double aspect en Daniel 7, versets 9 à 14, car Jésus peut être identifié à l'Ancien des Jours, aussi bien qu'au Fils de l'homme. En tant qu'Ancien des Jours, 1000 milliers le servaient, avant qu'il ne descende parmi nous. Comme Fils de l'homme, tous les peuples, les peuplades et les langues le serviront. Mais dans l'intervalle, il y a le temps de son humiliation, lorsqu'il est venu pour servir. Et cela a été jusqu'au point extrême de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ainsi, pour la 5e fois, depuis le chapitre 16, le Seigneur place sa mort devant ses disciples. Et cette fois, il parle de la vertu rédemptrice de celle-ci. Dieu soit béni. Nous sommes au nombre de ces plusieurs. Les scènes finales de l'Évangile sont introduites par l'incident concernant les 2 aveugles, comme Jésus sortait de Jéricho. Tant Marc que Luc ne mentionnent qu'un seul d'entre eux, appelé Bartimée. Mais il est évident qu'il y en avait effectivement 2. Ce même fait se retrouve dans les récits de la légion de démons chassés, car à la fin du chapitre 8, Matthieu parle de 2 hommes, alors que Marc et Luc n'en indiquent qu'un seul. Chaque fois, il y a 2 témoins de la puissance et de la grâce de Jésus. Et Matthieu le souligne, car ce serait particulièrement frappant pour les lecteurs juifs. Leur loi ne stipulait-elle pas la nécessité du témoignage de 2 personnes, celui d'une seule pouvant être rejeté? Le fils de David montait maintenant pour la dernière fois dans sa ville. Ces hommes avaient assez de foi pour le reconnaître, et ils obtinrent de lui la vue physique qu'ils désiraient. Les yeux ouverts, ils se mirent à le suivre. Cela parle symboliquement sans doute de la misère spirituelle des foules en Israël. Si seulement leurs yeux avaient été véritablement ouverts, elles auraient discerné leur Messie en Jésus au jour de sa visitation. Aujourd'hui, la situation est la même. Les gens se plaignent souvent du manque de lumière. En fait, ce qui leur fait défaut, c'est la vue spirituelle, c'est-à-dire la foi, qui leur permettrait de voir la lumière qui a brillé d'un éclat si vif en lui.